Hola chica, bienvenue sur Nectar Sun. Je suis Myriam Zen, spécialiste en estime de soi et créatrice du programme La Saison du Woo. Dans ce podcast, nous explorerons des thématiques comme l'estime de soi, les relations amoureuses ainsi que divers sujets sociétaux propres à notre génération. Mon objectif, t'offrir des clés pour enrichir ta réflexion et renforcer ta confiance en toi. Bonjour Safia, bienvenue, comment ça va?
Salut Myriam, bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien et toi?
Oui, super, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir pour commencer. J'aimerais te dire que j'ai commencé à te connaître avec ton blog à l'époque.
Ah ouais, purée, ça
Oui.
fait très longtemps.
Oui, ça fait très longtemps. Mais je crois qu'en plus, toi, tu t'es lancée en 2017. Et tu as lancé
Ouais,
le blog
c'est
en
ça.
2017, c'est ça?
En fait, le blog, je l'ai lancé en 2016.
Waouh! Et
Donc,
oui.
ça fait quand même, tu fais partie des OG là, c'est très rare. Tu es un Pokémon rare en fait.
Ah, c'est incroyable. En tout cas, pour te présenter brièvement, mais tu vas le faire par la suite, tu as commencé un blog et c'est là que j'étais découvert, mais je me souviens plus du nom de ce blog, par contre.
My Trendy Lifestyle.
Ma Trendy Lifestyle, bien sûr, évidemment. Tu as une formation phare qui s'appelle Build Your Podcast. Tu as créé un podcast qui comptabilise plus d'1 million d'écoutes, 1,4 million. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Build Your Podcast. Et tu as aussi ta propre chaîne YouTube.
Exactement.
Super. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es. Ici, on parle beaucoup d'estime de soi, mais aussi d'aventure entrepreneuriale dans l'estime de soi, de parcours de femme, en fait, tout simplement. Donc, je te laisse te présenter pour nos auditeurs plus en détail, pour ceux qui ne te connaissent pas.
Avec plaisir. Alors moi, je suis juriste d'entreprise de formation. Je fais des études en droit des affaires, non pas parce que je rêvais de faire ce job-là, mais parce que je ne savais pas quoi faire en sortant du bac. Et que bah, quand tu es jeune, on te parle beaucoup de débouchés, on te dit de prendre une voie où tu sais que tu auras du travail. Donc j'étais partie dans le droit, j'avais fini en droit des affaires, j'ai commencé à travailler. Effectivement, en fait, je me suis rendu compte rapidement que ce n'était pas un truc que j'aimais. Et j'allais pas avec plaisir au travail le matin. Donc en parallèle, j'ai décidé en 2016 du coup de créer un blog en fait juste pour partager un peu mes séries préférées, le maquillage que j'utilisais. C'était un peu fourre-tout, il n'y avait pas de ligne éditoriale, je ne savais pas ce que c'était une éditoriale. Et en fait, moi je lisais beaucoup de blogs, je regardais aussi beaucoup de chaînes YouTube, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais pas pu lancer la chaîne, enfin je n'ai pas pu tout simplement lancer la chaîne YouTube parce que c'était une trop grosse sortie de zone de confort. Alors que le blog, tu peux te cacher un peu derrière, tu vois. Donc ça passe. Donc j'ai lancé ce blog et en fait c'est grâce à ce blog que j'ai découvert le marketing digital. J'ai appris plein de choses. J'ai aussi appris qu'en fait il y avait des opportunités de monétisation, qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie grâce à leur site internet, etc. Donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de blogs d'américaines, elles détaillaient un peu tout, donc c'était très, très intéressant. Elles publiaient, ça se fait plus trop aujourd'hui, mais avant des rapports de revenus, où en fait elles détaillaient vraiment quelle source de revenus a rapporté quel argent. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le marketing d'affiliation, c'est comme ça que j'ai découvert la vente de produits digitaux, etc. J'ai trouvé que c'était génial. Et donc je me suis dit que, bah, puisque c'est un truc qui m'animait, et que à ce moment-là, je crois que j'avais 26 ans, j'étais encore jeune, bon, je me sentais jeune. Pour, tu vois, changer de carrière, et ben je me suis dit que j'allais tester et voir où ça me menait. Dans tous les cas, si ça ne fonctionnait pas, je pouvais revenir à mon job de base sans aucun problème. Donc, en 2017, du coup, j'ai lancé mon premier produit digital, qui était un e-book sur Pinterest, qui enseignait aux blogueuses, voilà, à générer du trafic de Pinterest depuis Pinterest vers leur site. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied dans cet univers-là, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai tout appris en cours de route. J'ai fait plein d'erreurs. Ça a mis énormément d'années pour que je puisse vivre de mon activité et être rentable. Mais pour le coup, je ne me suis jamais ennuyée et j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Donc, j'ai jamais regretté, à aucun moment je me suis dit, il serait peut-être temps de considérer le fait de retourner à un job entre guillemets conventionnel, tu vois.
C'est trop inspirant parce que je pense que tu fais partie de l'une des premières, en tout cas c'est mon impression puisque je te suivais toi et je t'ai suivi, en fait j'ai suivi tout ton parcours, le blog où tu parlais de développement personnel, de mode, c'est vrai, de toutes ces choses-là. Et en fait on ne savait pas qui était la personne derrière
Ouais.
ce blog au début. Je pense qu'on ne savait même pas que tu t'appelais Safia, tu vois.
C'est, il est possible que je n'ai jamais dit ouais, que c'était moi derrière. Ouais.
Et en fait, c'était trop intéressant parce que tu étais l'un des premiers podcasts aussi.
Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que je l'ai lancé en début 2019.
Oui.
Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert ça en 2018 et j'ai trouvé ça, mais génial. Genre, j'étais en voiture, j'écoutais des gens qui m'apprenaient des choses, moi, dans les transports, quand je faisais mon sport, mon ménage. J'ai trouvé que c'était génial et je me suis trouvé que c'était une bonne alternative pour créer un contenu plus vivant que le blog, mais où en même temps, je suis encore dans ma zone de confort parce que je suis une personne qui est quand même assez réservée. Pour le coup, je suis voilà, très vie privée, très. Voilà, j'aime bien me cacher. Genre, tu vois, dans une classe, j'étais du genre à être au fond, à pas prendre la parole, à voilà. Donc ça se reflète un peu dans mon parcours, mais c'est vrai que le podcast, ça semblait être le bon format pour moi à ce moment-là. Et effectivement, quand je l'ai lancé, en fait, certes, c'était déjà bien élaboré au niveau américain, etc., anglophone, mais en France, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai eu de la chance de bénéficier à ce moment-là de pas mal de visibilité.
C'est super puisque on va parler de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te portes. Et dans l'estime de soi, il y a trois composantes principales. Il y a la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et je me demandais quelle était ton estime de toi tout au long de ton chemin entrepreneurial, même tout au long de ta vie. Voilà, je te laisse nous dire un petit peu si c'était linéaire, s'il y a eu des hauts et des bas. Par rapport à ça.
Je dirais que ça a été linéaire dans le sens où j'ai jamais vraiment cru en mes capacités, à part quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Là, j'avais pas le choix. J'ai eu besoin de me, tu vois, de me faire confiance et de me dire que j'en étais capable. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis toujours laissée porter. J'ai toujours été très passive parce que j'avais pas forcément conscience de mes capacités. En fait, j'ai toujours été une élève moyenne. Donc, tu vois, j'étais vraiment tant que je fais ce qu'on me demande, mais pas plus non plus. Donc voilà, c'était un peu qui j'étais. Et c'est vrai que c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai été challengée, où je me suis dit, en fait, j'ai compris avec au fil des mois et des années que si je croyais pas en moi, si je sortais pas de ma zone de confort, si je me faisais pas confiance, en fait, ça allait pas marcher. Parce qu'il y avait personne pour me backupper, entre guillemets, c'était juste moi et moi-même. Donc j'ai dû me prouver petit à petit, avec les différentes étapes, les différentes choses que je pouvais lancer, que j'étais capable. Et en fait, c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai pu construire de la confiance en moi, de l'estime de moi. Aujourd'hui, je suis bien. Je dirais que c'est bien, mais qu'en fait, ça a vraiment pris un travail de plusieurs années, surtout d'étape par étape. J'ai jamais été du genre à faire des grands sauts d'un coup, tu vois. J'ai toujours été du genre à, OK, je fais un pas, je vois ce que ça donne. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je gère? Oh, en fait, ça va, je suis pas morte, tout va bien, donc je peux le refaire et j'avance. Donc, j'ai toujours été ce genre de personne, tu vois, en mode, elle était là, la confiance en soi, mais c'est vrai que je ne capitalisais pas forcément dessus jusqu'à ce que je n'ai plus le choix.
Super intéressant. En fait, c'était une manière de te mettre au pied du mur, l'entrepreneuriat.
Ouais, mais moi aussi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être en danger ou de pas avoir de. Tu vois, c'est pour ça que j'ai aussi un problème avec la procrastination, c'est que je fais les choses en dernière minute. C'est qu'en fait, j'ai besoin d'être dans c'est dans le chaos que je réfléchis le mieux et que tout s'éclaire et que je me dis, OK, j'y vais et j'avance, quoi. Et je me pose plus trop de questions, si tu veux.
Comme beaucoup de gens qui font les choses au dernier moment et qui sont tellement efficaces et qui ont la meilleure note parce qu'ils font les choses au dernier moment.
Ouais, après ça marche pas tout le temps. Et des fois où tu te dis, ok, c'est mieux si j'avais anticipé les choses.
Aussi, c'est vrai. Pour toi, Safia, est-ce qu'il existe un équilibre vie pro, vie perso? Et comment toi, tu gères ça?
Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément d'équilibre parfait comme on a tendance à le penser quand on a envie de travailler là-dessus. Moi, je suis le genre de personne qui pense qu'on a des phases. Et donc, j'ai eu des phases où mon activité professionnelle était un peu plus importante que ma vie perso et ma vie sociale, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui me convenait. Et en fait, avec le temps, eh bien, j'avais des périodes où c'était plutôt ma vie qui prenait le dessus et le business qui était un peu moins au centre de tout ça, etc. Aujourd'hui, je suis à une étape où j'ai trouvé une sorte d'équilibre, même si ce n'est pas un équilibre parfait, j'ai trouvé une sorte d'équilibre entre les deux, mais je pense que c'est parce que j'ai eu en amont ces périodes où j'ai charbonné, tu vois, où j'ai beaucoup travaillé, où je me suis beaucoup donné pour mon activité, etc. Et c'est ce qui contribue au fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'avoir un. De plus mettre mon entreprise au centre de ma vie. et de mettre moi et mon entourage. Mais tu vois, ça a été tout un cheminement et ça n'a pas été automatique parce que je trouve que c'est facile de dire oui, il faut prendre du temps pour soi, il faut penser à soi, ton business, c'est pas ta vie, etc. Mais en fait, quand tu démarres, ça l'est, mine de rien. Et ça t'aide aussi à te lancer, surtout quand tu n'as pas d'argent, en fait. Tu vois, quand financièrement, c'est dur, je trouve que pour nous, même si c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je le conçois, hein, c'est plus simple de mettre plus d'énergie dans le travail, de se dire, voilà, de se rassurer en mode, OK, j'ai testé telle chose, etc. Donc, disons que c'est avec le fait que je commence à gagner ma vie et que j'apprenne aussi, que je tire des leçons de tout ça, que j'ai commencé à rééquilibrer un peu les choses. Mais qu'en soi, je pense que c'est quand même un travail qui prend du temps. Aujourd'hui, OK, ma situation me convient, mais en même temps, je sens aussi qu'à certains moments, j'ai des phases aussi, tu vois, j'ai des pics où j'ai plus forcément envie de travailler, tu vois, j'ai envie de rien faire chez moi, ou j'ai envie de partir en vacances, etc. Et il y en a d'autres où j'ai plein d'idées et j'ai envie de travailler tous les jours, 10 heures par jour, etc. Et tu vois, je l'accepte aussi. Donc je pense qu'il y a ce truc de d'être OK avec le fait que, en fait, l'équilibre vie pro et vie perso, c'est pas le même pour tout le monde. Chacun a son propre équilibre et surtout, ça n'a pas besoin d'être linéaire et d'être pareil toute l'année. Genre, c'est pas parce qu'à certains moments tu travailles plus qu'à d'autres que tu rates. Ou c'est pas parce qu'à un moment tu es plus concentré sur toi, sur ton entourage, ta famille, que t'es feignant. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une appréciation personnelle.
Totalement. Et ce que tu dis là me rassure énormément parce que ça fait écho.
Tant mieux.
Quels ont été tes gros changements de vie, Safia? Parce que je me souviens à un moment donné où tu allais un peu plus vers le lifestyle et puis après, c'est là où tu as décidé de te lancer dans les produits digitaux. Comment tu as géré cette phase de transition? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça?
Ouais, en fait, comme tu l'as dit, du coup, j'avais commencé avec un blog en 2016 et même si j'ai lancé un premier produit digital en 2017, en fait, j'y connaissais rien et c'était essentiellement mon seul produit. Enfin, cet e-book est devenu une formation quelques années plus tard, mais c'est resté un e-book pendant plusieurs années. Et en fait, à côté de ça, j'avais une activité de blogueuse et j'avais aussi à un moment donné une activité d'influenceuse, etc. Donc, j'avais une double casquette où je travaillais avec des marques, je faisais des voyages presse, je faisais des collaborations sponsorisées, etc. Et où je devais aussi vendre mon produit digital. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je tâtonnais, j'étais pas forcément rentable. Et en fait, en 2019, mon activité de blogueuse a particulièrement décollé. Et donc, j'ai reçu beaucoup plus d'opportunités, mais qui n'étaient pas rémunérées. Donc, j'ai fait énormément de voyages presse, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Franchement, ça a été une super année pour moi. J'ai hyper riche humainement, en voyage, etc. Mais du coup, pas en argent. Et en fait, je me suis retrouvée au mois de juin où j'ai dû faire un CA de genre 350 euros parce que j'étais en voyage tout le mois. Littéralement, j'avais passé 2 jours chez moi. Sinon, je voyageais beaucoup. Et en fait, je voyageais tellement que j'avais pas le temps de faire la communication sur mes offres, sur mon produit digital. Donc, en fait, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Au bout d'un moment, on est en 2019. Moi, j'ai commencé en 2016-2017. Voilà, ça fait 2 ans et demi. Il est temps que je commence à faire des choses de manière un peu plus sérieuse. Et donc, je me suis demandé ce qui était le plus pertinent et ce que je me voyais faire, ce qui était le plus sûr. Ce qui était le plus sûr à ce moment-là, c'était de m'orienter davantage sur la partie entrepreneuriat, vente de produits digitaux, parce que c'est quelque chose que je pouvais maîtriser. Et que, voilà, ça dépendait de moi. Donc, je me suis laissé la fin de l'année 2019 pour finir mes contrats, mes collaborations, etc. Je me souviens, j'ai fait mon dernier voyage en novembre 2019 et c'était en Irlande. Donc, voilà, très, très cool. Dublin, j'avais adoré. Et je m'étais dit, OK, c'est le dernier, Safia. Maintenant, c'est toi et toi-même et tu te bouges les fesses pour faire en sorte que bah, ça marche. Donc, je suis arrivée en 2021 avec un état d'esprit un peu différent et où je me suis dit, mes journées doivent être dédiées à l'amélioration de mes offres et à la promotion. Bon, ce qui était une bonne chose, entre guillemets, alors pas pour tout le monde, mais pour moi, oui, c'est que le Covid est arrivé. Donc, en soi, voilà. Et en fait, ça m'a inspirée parce que je recevais tellement de questions sur comment on fait pour lancer un podcast, comment ça se passe, comment tu obtiens des résultats. Et donc, j'ai profité du confinement pour créer une nouvelle offre. Qui est du coup la formation Build Your Podcast, mais du coup dans sa première version. Parce qu'à ce moment-là, ce que je connaissais, c'était la création et le lancement d'un podcast. Initialement, la formation, c'était juste ça. C'était juste, je crée mon podcast et je le mets en ligne. Voilà. Donc, j'ai fait ça et au final, genre, je me suis prise au sérieux. Tu vois, quand j'ai créé cette offre, quand j'ai préparé la phase de vente, le lancement, etc., j'étais dans un état d'esprit différent où j'avais confiance, où j'étais déterminée, où j'avais fait plein de choses que j'avais jamais osé faire avant. Genre, tu vois, une masterclass, par exemple, en direct et tout. Grosse sortie de zone de confort, mais en fait, ça a été aussi le premier où je me suis dit, vas-y, je le fais. Et en fait, c'est sur cette année 2020 que j'ai radicalement changé les choses. J'ai gagné en confiance, j'ai gagné de l'argent, je me suis fait connaître aussi parce que j'ai lancé une formation sur une niche, du coup, le podcast, qui n'était pas encore exploité, en fait, dans la
Complètement.
francophonie. Ouais. Donc, en fait, tout de suite, on m'a associé à ce domaine. Du coup, ça m'a aidé à me rendre visible beaucoup plus facilement. Et donc, ça m'a convenu pendant un certain temps. Là, tu vois, en 2023, je suis arrivée à une phase où, bah, voilà, j'ai pas l'impression que j'ai fait le tour, mais en même temps, j'ai toujours su que je vendrais pas des formations en ligne pour toujours. Et en fait, là, je suis dans une phase où je rétro-pédale un peu, je reviens à la Safia d'il y a quelques années, puisque je réinjecte du dev perso, du lifestyle, etc. dans mon contenu. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que je peux pas être juste une chose. Je peux pas être Safia et podcast et puis c'est tout, tu vois. J'ai besoin d'un plus grand panel. Avant, je m'autorisais pas à aborder toutes ces choses-là. Et en fait, je suis arrivée à un point de non-retour en 2023 où je me faisais chier, clairement. Et je me suis dit, le seul moyen que je continue à faire ce job, c'est que je fasse les choses avant tout parce que j'ai envie de les faire et que ça me fait plaisir. Au détriment, peut-être que je perde quelques personnes, etc. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a aidée à revenir sur un truc un peu plus large. Mais aussi qui correspond à toutes les facettes de qui je suis.
Absolument, et je l'ai remarqué, et puis tu en parles très bien aussi dans ton podcast. Je me souviens d'une fois, je marchais dans les rues de Buenos Aires, j'avais ton podcast dans les oreilles, et je crois que tu faisais ton bilan de l'année 2022,
Ouais.
et t'avais dit que tu voulais, je crois, hein, que tu voulais te lancer sur YouTube. Donc tu t'es lancé en 2023.
Je me suis lancée en 2023, ouais.
Et cet épisode m'a énormément marqué, puisque je me souviens, quand je me souviens où j'étais à ce moment-là, c'est qui m'a
Ouais.
marqué, parce que c'était très inspirant.
Merci beaucoup.
Comment tu as géré cette phase-là en termes d'émotion? Parce que j'ai l'impression que de la façon dont tu le racontes, tu étais très terre à terre. Mais est-ce que tu as eu des moments où tu as eu peur, où tu t'es dit, ah, oh, je ne sais pas si j'y vais, est-ce que ça va marcher? Enfin, comment tu as géré cette phase, certainement de doute aussi?
Ouais, j'ai moi j'ai c'est bizarre parce que j'ai, enfin, c'est pas bizarre, non, j'ai toujours le même comportement, en fait. Dans un premier temps, quand je flippe d'un truc, je sais que, tu vois, je sais que je suis dans une situation où j'ai besoin de changer les choses. Mais en même temps, ça me fait peur, je suis paralysée. Je ne fais rien. Voilà, ça me bloque, je ne fais rien du tout. Jusqu'au jour où j'ai un déclic, en fait, et où je me dis, OK, il faut y aller, il faut le faire. Alors, bien sûr que je ressens de la peur tout au long du processus, mais en fait, elle ne m'empêche pas de faire les choses, tu vois. Même si elle est là et elle m'accompagne, je fais avec au quotidien et je fais ce que je me sens capable de faire à l'instant T. Tu vois, donc c'est pour ça aussi que je te disais au début que moi je prends pas de changement radical dans ma vie et que je fais les choses une étape à la fois. C'est que j'ai vraiment fait ça. Tu vois, le fait de lancer la chaîne YouTube, c'était un objectif, une chose que je devais faire avant le 31 janvier 2023. Bon, j'ai procrastiné puisque ma première vidéo est sortie genre le 26 janvier, tu vois. Mais je savais que c'était la première étape qui allait m'aider ensuite à changer un peu la direction que j'étais en train de prendre. Donc ça a été le premier step. Une fois que ça a été fait, je me suis rendu compte bah, que tout le monde s'en fout, donc je peux faire n'importe quoi et apprendre en cours de route, il n'y a pas de problème. Je rapprends, en fait, si tu veux, toute une nouvelle plateforme, une nouvelle production de contenu, une nouvelle création. Donc c'est aussi, tu vois, c'est aussi excitant, en fait, mine de rien. Ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on a tendance à juste voir le résultat et à se dire, OK, c'est là que je dois aller. Mais en fait, sur le chemin, il y a plein de trucs qui sont hyper cool et intéressantes. Et ça m'a aidé à, si tu veux, à avancer malgré la peur, les hésitations que j'ai pu ressentir. Qu'est-ce que les gens vont penser si je me lance sur YouTube? Ils vont découvrir potentiellement plus de ma personnalité, tu vois? Alors que je suis assez, pas secrète, mais ouais, je suis réservée, tu vois? Donc, c'est pas quelque chose que j'avais tendance à mettre forcément en avant. Donc, j'étais un peu réticente. Je l'ai fait. Je me suis rendu compte que ça allait, que les retours étaient bons aussi, tu vois, que les gens étaient contents de découvrir d'autres facettes de qui je suis, de ma vie. Donc, je me suis dit, OK, voilà, petit à petit, en fait, vraiment. La peur est là, mais je fais une chose que je me sens capable de faire.
C'est trop drôle parce que l'autre fois, je regardais une de tes vidéos YouTube et j'ai regardé les commentaires et il y avait un commentaire et ça aurait pu être moi qui écris ce commentaire quand j'ai découvert ton blog. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle communauté, tu vois?
Ouais, c'est ça qui est marrant parce que bon, moi j'ai, tu vois, j'ai mon podcast que tu as dit qu'il est, bon, il est plus trop, il est plus aussi actif qu'auparavant. Il était quand même très écouté. J'ai mon
Oui.
compte Instagram où il y a presque 50 000 abonnés et tout. Mais en
Ouais.
fait, je suis arrivée sur YouTube et j'ai pas réussi à ramener les gens qui me suivaient déjà, ou en tout cas une petite partie m'a suivi, mais la grande majorité non. Et en fait, la plupart des gens qui regardent mon contenu et qui me découvrent, c'est via la recherche YouTube. Donc ouais, c'est, je trouve ça hyper intéressant qu'en fait ça t'ouvre vers un nouveau public, tu vois, une nouvelle audience. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, tous les jours presque, je reçois un commentaire d'une personne qui me dit « Je viens de te découvrir, j'ai regardé plein de vidéos et tout. » Et je suis en mode « Mais trop bien, c'est exactement ce que je fais avec les gens que j'adore et que je découvre. » Donc, je trouve ça trop, trop bien. Et en fait, ça te remet aussi dans les débuts. Parce que quand tu fais ce que tu fais depuis un certain temps, tu sais, il y a un certain confort qui s'installe. Alors que là, quand tu es sur un nouveau format où toi, t'apprends et où les gens aussi, toi, te découvrent, en fait, ça crée un truc, je sais pas, je trouve que ça te porte un peu.
C'est vrai, c'est satisfaisant. Il y
Ouais.
avait quelque chose de très satisfaisant dans tout ça. C'était trop drôle. J'ai trop aimé cette sensation. Est-ce que tu as connu des obstacles, des moments de down qui ont impacté ton business, ta santé mentale ou ton estime de toi?
Alors, je dirais qu'il y a eu des petits échecs où j'ai pas réussi, mais ça a commencé dès le début. En vrai, dès 2018, j'ai lancé une autre offre qui n'a pas du tout fonctionné, que j'ai pas réussi à vendre. Donc ça a été un premier coup dur. Donc je me suis dit, voilà, est-ce que finalement c'était un coup de chance la première fois et du coup, bah, je vais pas y arriver une deuxième. Pendant un temps, je baisse un peu les bras, puis au final, je me dis, ouais, c'est dommage, je peux réessayer. Et donc ça m'est réarrivé aussi par la suite. Donc en soi, j'ai pas eu d'obstacles et d'échecs énormes. C'est très commun ce que j'ai vécu, si tu veux. Et même si ça me heurte toujours sur l'instant présent, en
Oui.
fait, le temps fait que je me fais une idée, j'accepte et je retente différemment. Tu vois. Mais j'ai quand même besoin d'un temps où je suis deg et où genre, je remets tout en question, tu vois.
Rien de plus humain, j'ai envie de dire. C'est vrai, complètement, je comprends totalement. On va passer sur un autre sujet que vraiment, je rêvais de te poser ce genre de questions, puisque en fait, moi, je te voyais un petit peu comme ma grande sœur puisque je t'ai suivie tout au long. Et toi, aujourd'hui, tu as plus de 30 ans et je mourrais d'envie de te poser cette question. Comment t'as géré ce passage? Est-ce que pour toi, il a été facile? Il n'a pas été facile parce qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans, je vais bientôt sur mes 30 ans. Et je voulais savoir comment, est-ce que ça a été quelque chose d'assez naturel? Ça dépend des gens, en fait. Et donc, je voulais te poser cette question.
Ben en fait, je me suis posé pas mal de questions quand je suis passée dans la trentaine. Et en plus, j'ai eu 30 ans. Attends, si je dis pas de bêtises. On est en quelle année, là? 2024. Donc, j'ai eu 30 ans en 2019. L'année où financièrement, j'arrivais pas, où tu vois, je faisais plein de trucs en même temps, etc. Donc, j'étais dans un environnement où, en termes d'estime de toi, t'es en mode, est-ce que je suis une merde? Tu vois? J'arrive pas, financièrement, je suis précaire. Même si, ouais, j'étais pas à la rue, je précise, j'étais déjà avec mon mari, qui n'était pas encore mon mari, qui lui avait un job, voilà, un CDI. Donc en soi, voilà, j'étais pas à la rue, hein, j'étais pas non plus à plaindre. Mais en même temps, moi, même si, voilà, on est un couple et on est une entité, ma réussite personnelle et mon ambition personnelle, c'est quelque chose d'hyper important, tu vois. J'ai une grande ambition et je peux pas me résoudre à me dire, à ce moment-là, j'étais vraiment en train de me dire, est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je suis nulle? J'ai 30 ans, j'y arrive pas, etc. Donc ça, le fait de prendre cette décision, mine de rien, et d'être au pied du mur et de me dire, OK, je me prends au sérieux. En fait, j'ai eu la sensation que à partir de la trentaine, j'ai été active dans ma vie, tu vois. Et qu'avant ça, je me laissais un peu porter par le temps, par ce que les gens pouvaient me dire, par la société, par ma famille. Je prenais pas vraiment de décision, tu vois. Je laissais les autres prendre un peu le lead sur ma vie. Et moi, j'étais, tu vois, sur le siège passager, puis j'attendais, tu vois. Et en fait, quand je suis passée dans la trentaine, je me suis dit, OK, à partir de ce moment-là, c'est moi qui prends le volant. C'est moi qui conduis, c'est moi qui décide si on sort à cette sortie ou si je continue ou pas. Donc, ça n'a pas été simple. Mais en même temps, et en plus, c'est particulier parce que quand t'es jeune et quand t'es petit, moi je pensais qu'à 30 ans, j'allais savoir la vie, que je serais une adulte responsable.
On est d'accord.
Je me suis dit, bon, à 30 ans, tu maîtrises la situation. En fait, pas du tout. À 30 ans, tu es adulte. Ça y est. Là, tu passes un cap où tu deviens adulte. Mais avant, t'expérimentes, etc. Et au final, franchement, moi, la trentaine, je trouve. Alors, bien évidemment, je ne suis pas encore dans la quarantaine, etc. Mais je trouve que ce sont les meilleures années parce qu'on est beaucoup plus mature. On est beaucoup plus sage, on sait ce qu'on veut, on est beaucoup plus affirmé. Et en fait, tu perds pas ton temps, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup être dans la trentaine. Et tu vois, le temps qui passe, et cette année, je vais avoir 35 ans, et ça me fait même pas peur parce que je kiffe être dans cette période de ma vie où, en fait, je suis vraiment en train de construire les choses pour plus tard. Et donc, je trouve qu'en tant que femme, c'est aussi le moment où tu te poses un peu plus de questions sur ce que tu veux dans ta vie, ce que tu tolères, sur la personne que tu as envie d'être, etc. Tu te laisses beaucoup moins influencer par tout le reste. Et en fait, tu reviens vraiment à toi. Donc, pour le coup, je trouve que pour moi, c'est une décennie d'affirmation et de prise en confiance en soi, tu
Ouais.
vois. notamment pour les femmes, je trouve. Et c'est hyper important. Donc, moi, si je peux te rassurer, entre guillemets, sur cette étape qui, de toute façon, tu ne pourras pas éviter, c'est qu'en fait, en vrai, c'est pour moi, c'est les meilleures années, franchement.
Trop intéressant. En plus, j'ai demandé à ma mère il n'y a pas très longtemps. Elle m'a eu à 22 ans et
Ok.
je lui ai demandé c'était quand que tu t'es sentie adulte réellement. Et elle me dit, je crois que c'est quand j'ai eu des enfants. Mais tu t'es
Ah
sentie
ouais?
adulte à 22 ans. Waouh! Et quand je vois ma sœur, elle qui a des enfants et qui est plus jeune que moi, désolée hein, si tu m'écoutes, mais je te vois pas comme une adulte.
Ouais, moi aussi, quand je vois mes potes avec leurs enfants, je suis en mode, en fait, ils savent pas non plus ce qu'ils font. Et ma pote me le dit, elle me dit, mais la plupart du temps, je ne sais pas ce que je fais, j'apprends en cours de route, tu vois.
C'est trop intéressant parce que, en fait, il y a ce qu'on montre et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et c'est trop bien. Je suis trop contente d'entendre ta réponse par rapport à ça.
Ouais, je pense que c'est important de, voilà, de relativiser, de se dire que en fait, nos parents, qu'on imaginait aussi responsables, aussi adultes, savent tout faire, en fait, pas du tout. Ils étaient juste en train de faire avec ce qu'ils avaient à l'instant T, tu vois, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est à cette étape où, si demain on te donne un chat ou un enfant, ben, en fait, toi non plus, tu sais pas ce que tu dois faire et tu dois apprendre en cours de route, quoi.
Absolument. Pour toi, Safia, c'est quoi le succès? La définition du succès pour toi, c'est quoi?
C'est une question intéressante. Direct pour moi, j'estime que j'ai réussi. Alors j'estime déjà que j'ai réussi. C'est quand j'ai un job que j'aime et surtout qui me permet d'avoir le confort que je veux au quotidien. En fait, si tu veux, c'est vrai que moi j'évolue dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que je me dis que les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être pas forcément entrepreneurs, peut-être pas à leur compte. Voilà.
Absolument, il y a un petit peu de tout, mais ce n'est pas forcément des entrepreneurs.
Ok, donc voilà. Moi, j'évolue dans un milieu où c'est la quête de toujours plus. Où on t'invite sans arrêt à faire plus de chiffres, à avoir plus d'audience, à faire encore toujours plus, en fait. Ça, c'est pas ma définition de la réussite. Moi, mon objectif dans la vie, c'est pas d'être millionnaire. Si je le deviens, bien sûr que j'accepte. Donnez-moi les millions. Mais en attendant, j'ai pas besoin de ça pour estimer que j'ai réussi. À partir du moment où j'ai une vie confortable, où je suis en mesure de passer du temps avec mes proches, j'ai du temps pour mes hobbies, etc. Et mon job reste toujours un plaisir. Mais voilà, c'est pas le centre de tout. Mais en fait, pour moi, c'est ça la réussite, tu vois. C'est genre juste, j'ai un job que j'aime, il me permet de me payer des trucs que j'ai envie de me payer. Ok, c'est bon. Voilà.
C'est trop intéressant parce que c'est aussi pour ça que j'ai aimé l'un de tes derniers podcasts d'ailleurs où tu parles de ta définition, je crois, de ton ambition et enfin, du fait que oui, absolument, on évolue dans une industrie d'une certaine manière où tout est, on veut toujours plus, on veut toujours plus, ouais. Et
Mais
ça
j'ai
peut être.
été là-dedans. Ouais. Je pense qu'on passe tous un peu dans cette phase où on se prend un peu à ce jeu-là, on est embarqué dans le train et on se retrouve à faire des choses, à lancer des projets qu'on n'a même pas envie de lancer en premier abord, et parce qu'on pense que c'est ça la définition de la réussite, et que pour être ambitieux aux yeux des autres, pour qu'on nous respecte et qu'on nous admire, etc., on a besoin de faire toutes ces choses-là. En fait, moi, j'étais dans ce truc-là, et l'année dernière, et je pense que c'est aussi le fait que j'ai perdu quelqu'un dans ma famille, ça m'a amené à me poser des questions, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler, surtout que je vois les gens autour de moi, hein. Ils sont pas heureux, hein. Ils ont beau avoir plus d'argent que moi, ils sont pas heureux, ils travaillent énormément. En fait, moi, mon but dans la vie, c'est juste de vivre, tu vois. C'est tout, c'est pas de travailler à fond, etc. Bien sûr que ça ne me dérange pas de travailler, mais mon but dans la vie, c'est de vivre ma vie. Et donc, à partir de là, moi, ma définition de l'ambition, c'est voilà, quelque chose d'un peu plus simple, on va dire, que ce qu'on peut nous vendre sur Internet, surtout quand on parle d'entrepreneuriat.
Absolument. Et tu as écrit un livre en 2022 qui s'appelle Build Your Podcast, il me semble.
C'est ça.
Ça fait quoi d'écrire un livre?
Alors, il y a plusieurs volets à ça, dans le sens où c'est un process très dur. C'est pas évident. Et en plus, moi, j'ai écrit un livre facile, entre guillemets, dans le sens où c'est de l'éducation, de l'éducatif, tu vois. Je lis des romans, et maintenant que j'en ai écrit un de livre, je suis en mode, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour imaginer des histoires, pour faire des liens vers des trucs du début. Moi, je sais que j'en suis incapable. Donc, ça a été dur dans le sens où c'est vraiment déjà, c'est un job. Et moi, j'avais déjà un job. Donc, j'ai dû caler un job en plus de mon job. Franchement, c'était pas simple, tu vois. Donc, sur cet aspect-là, ça a été dense. Je l'ai écrit quand? En 2022. Ouais, l'année 2022, elle a été chaotique.
Wow.
C'était dur. Franchement, c'était dur. Mais en même temps, une fois qu'il sort, tu oublies. Je crois que c'est comme les femmes qui accouchent. Elles disent
Ah
tout
oui,
le temps
c'est ça.
ça, tu vois. C'est la même chose. Une fois qu'il est dehors, que tu l'as entre tes mains, tu vois que c'est ton livre, que les gens l'achètent, qu'ils le lisent, qu'ils te font des retours. En fait, là, tu oublies tout, la souffrance, entre guillemets, la sueur que tu as eue. Et c'est très très cool. Moi, je suis très contente de pouvoir me dire que mon livre existe. Déjà, c'est bon pour l'ego de se dire j'ai
Absolument.
écrit un livre. Ça fait du bien. Ok, ça me donne aussi une autre crédibilité, tu vois, dans
Absolument.
l'industrie.
Ouais.
Et pour les gens, c'est le moyen. Pour moi, en fait, ma démarche première avec ce livre, ça a été de faire une ressource qui permette aux gens de se former au podcasting à petit prix. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2016, 2017, et je pense jusqu'en 2020, j'ai gagné de l'argent. Mais genre 2016, 2017, 2018, 2019, j'aurais jamais pu me payer la formation, tu vois, que j'ai aujourd'hui. Et un livre comme ça, par contre, j'aurais pu, parce que c'est, je pense, c'est 18,90. Et donc, en fait, c'était la possibilité pour moi de rendre accessible ce que j'avais appris et ce que je savais. Donc, j'étais très contente de le faire. Je suis toujours très, très heureuse quand des gens me font des retours. J'ai lu ton livre, j'ai lancé mon podcast, ou regarde, tu vois, je suis allée la semaine dernière à un événement, à un espèce de gala d'entrepreneurs. Et en fait, il y a des personnes qui sont venues avec le livre, tu vois. Ils ont dit, ouais, j'espérais le croiser, donc
Wow.
tu veux ramener le livre, est-ce que tu veux me le signer? Waouh, tu vois, ça fait.
Ouais.
C'est un truc de fou. Et en fait, ça rend les choses beaucoup plus tangibles. Et je
Ouais.
trouve que ça a énormément de valeur. En fait, l'impact que tu as sur les gens, comment tu peux les aider, que ce soit un petit impact ou un grand, tu t'en rends pas compte sur Internet. Même si tu as des retours, tu vois, tu as des clients, tu fais du chiffre d'affaires, donc ça se vend, c'est que ça fonctionne. Mais en fait, il n'y a rien de plus ouf que de croiser une personne qui a ton livre et qui te dit soit je l'ai acheté, je l'ai adoré, soit est-ce que tu peux me le signer, je suis trop contente, etc. Et aussi, c'est très cool d'aller à la Fnac et de trouver ton livre dans les rayons. Tu vois, ça aussi,
C'est
à côté.
incroyable, j'imagine, j'imagine. Ah, j'aime bien. Et pour terminer, de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir 100% épanouie pour la Safia d'aujourd'hui? Parce que j'imagine que ça change souvent, ça peut changer, mais aujourd'hui, de quoi est-ce que tu as besoin pour être 100% épanouie, Safia?
De quoi est-ce que j'ai besoin? Je pense que j'ai besoin. C'est une bonne question. J'ai besoin déjà de mon mari. Parce que, bon, ça, c'est un peu mon rock, c'est mon pilier. J'en ai pas parlé durant l'épisode, mais en fait, c'est lui qui m'a toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire, etc. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait du kiff, encore et toujours, dans ce que je fais.
Oui.
Et surtout que je garde quand même une part de temps pour moi. Je me suis rendu compte avec le temps que c'était mon moteur, en fait. Et que j'avais besoin vraiment de me retrouver avec moi-même, d'avoir des activités créatives en dehors du travail, d'avoir des activités en dehors du travail, etc., pour m'aider à, tu vois, à juste à réfléchir et à m'autoriser le temps de penser, mine de rien. Parce que c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant. Donc en soi, j'ai pas besoin d'énormément de choses, mais on va dire que c'est mes piliers dans ma vie aujourd'hui.
Trop bien. C'est finalement, tu vois, c'est des choses simples. Tu vois, finalement,
Totalement.
tu vois, il y a vraiment une course, et effectivement, à l'argent, au succès comme on l'imagine, à la réussite comme on l'imagine. Je pense que quand il nous arrive des choses dans la vie, on peut avoir des déclics, et ces déclics nous ramènent à ce qu'il y a de plus essentiel, finalement.
Ouais, complètement. En fait, tu te rends pas compte, surtout quand tu es dans un tourbillon ou tu es dans une course, entre guillemets, parce que d'autant que tu te rends pas compte, en fait, que ça te suffit jamais. Que certes, tu avances et tu arrives à faire plus, etc. En fait, tu ressens toujours qu'il te manque un truc, que t'es pas comblé, t'es toujours en insécurité, etc. Donc parfois, effectivement, tu as besoin d'un déclic. Pour moi, ça a été ça. Pour d'autres personnes, c'est un burn-out aussi. Il y en a d'autres, c'est... Enfin, il y a plein de raisons. Chaque personne a son histoire, son parcours. Mais ces déclics-là, ils sont quand même importants. Il faut les écouter, tu vois. Parce que aussi, on les écoute pas forcément. Parfois, on a envie de rester têtu parce que c'est ce qu'on connaît, c'est plus simple, etc. Et aussi pour une histoire d'ego, je pense, de temps en temps.
Mais...
Mais effectivement, c'est quand on est face à une situation où on remet les choses en question, faut juste s'arrêter, souffler et rien faire, en fait. Plutôt que de s'entêter à vouloir faire que la machine tourne, etc. En fait, juste fais une pause. T'as besoin aussi de moments où il se passe rien, quoi.
Merci infiniment, Safia, pour cette interview. C'était hyper inspirant, comme d'habitude.
Merci.
Et je te souhaite vraiment le meilleur.
Merci beaucoup et merci à toi pour cet échange et pour tes questions. Ça change des interviews que je peux faire, donc c'était très agréable. Et je peux aussi te souhaiter ta définition du succès, en tout cas, qu'elle se réalise si ce n'est pas encore fait. Mais c'était un plaisir de d'échanger avec toi.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. À bientôt, salut.